Claude, c'est le journal.
Bonjour, merci de votre fidélité et bienvenue à cette première édition du journal français de ce matin. Les titres du journal, l'AZADO, ONG des droits de l'homme, émet des réserves sur l'efficacité de la demande d'extradition du gouvernement lancée contre Jules Moutéboutsi et ses hommes, parce que cette demande d'extradition émise par le gouvernement survient dans un contexte d'impunité généralisée. L'identification et l'enrôlement des électeurs au Nord Kivu se fait dans un climat de suspicion. La population qui veille au grain a failli exclure un homme travaillant de l'autre côté de la frontière avec le Rwanda qui est venu s'enrôler avec ses pièces d'identité en ordre. Ouverture ce matin à Brazzaville de la 23e session consultative des Nations Unies sur les questions de paix et sécurité en Afrique centrale. On y parlera notamment de la réinsertion des ex-combattants et le processus démocratique dans la sous-région. Encore une fois, bonjour. L'AZADO, ONG des droits de l'homme congolais, ne croit pas à l'efficacité de la démarche du gouvernement de demander l'extradition du Rwanda en RDC de Jules Moutéboutsi et de ses hommes. Pour l'AZADO, cette demande d'extradition se fait dans un contexte interne d'impunité et de faiblesse de la justice dans le pays. Ami Gongondé, président de l'AZADO, estime que la solution réside dans la mise sur pied de la Cour pénale internationale. Il a été joint par Eugène Kabambi.
Nous émettons des réserves en ce qui concerne la procédure d'extradition dans la mesure où nous sommes en tout cas sûrs que la RDC n'a pas signé des accords dans ce sens-là avec le Rwanda. Et demander l'extradition de Moutéboutsi, si à l'heure actuelle nous pensons que ça ne sera pas possible, nous mettons en exergue le statut de Rome. Nous pensons que si les poursuites sont exercées dans le cadre de la Cour pénale internationale, nous pensons que ça pourra y arriver et Jules Moutéboutsi et Kunda seront déférés devant la justice. Et en ce moment-là, ça sera vraiment effectivement la lutte contre l'impunité.
Mais comment y arriver alors? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire?
Nous demandons d'abord au gouvernement d'aider la Cour pénale internationale pour que les enquêtes qui semblent être effectives puissent effectivement être faites et aussi de signer déjà la loi de mise en œuvre pour que nos textes nationaux soient en mesure de travailler correctement avec la Cour pénale internationale pour que les choses puissent aller de l'avant.
Y a-t-il un rapport direct entre les menaces de Laurent Kunda et la désertion d'éléments ex-ANC des rangs des FARDC? La porte-parole de la MONUC se refuse de faire un lien direct entre une lettre qu'aurait écrit Laurent Kunda, ancien chef des insurgés de Bukavu, et ses désertions des soldats de la 8e région militaire du Nord Kivu, défection signalée la semaine dernière. On écoute Rachel Eklou Asogbavi qui intervenait au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUC hier.
Je ne peux pas faire de lien particulier entre une lettre qui aurait été écrite par Laurent Kunda et la désertion de militaires des FARDC, dont nous ne connaissons pas la raison de cette désertion. Ça fait quand même de bien trop grandes hypothèses, ce qui ne veut pas dire que nous ne nous tenons pas préparés. La situation par rapport à l'année dernière où Laurent Kunda est apparu sur... C'est tristement fait rappeler au souvenir des Congolais, la situation a particulièrement changé et dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Si nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons une brigade au Sud Kivu, une brigade au Nord Kivu, et ce sont deux brigades qui travaillent régulièrement avec les FARDC, qui ont développé des opérations conjointes avec les FARDC, la situation a changé.
De son côté, le porte-parole militaire de la MONUC, le lieutenant-colonel Thierry Provendieu, confirme ce que dit Rachel Eklou. Il a fait savoir que la brigade MONUC du Nord qui vous maintient un rythme opérationnel élevé dans la province, elle est en mesure de réagir énergiquement à toute action visant à affecter les termes de son mandat, celui d'assurer la protection de la population sous menace directe dans sa zone de responsabilité. C'était là un reportage signé Eugène Kabambi. Identification et enrôlement des électeurs au Nord Kivu. La question de la nationalité est un sujet sensible. La population veille au grain, mais dans un climat qui n'est pas moins un climat de suspicion. Le week-end dernier, un homme accusé d'être rwandais a eu maille à partir avec d'autres qui faisaient la file devant un bureau de vote. L'homme avait pourtant sur lui des documents d'identité congolaise en ordre. Dieudonné Bagaloua nous retrace les péripéties de cet incident.
Samedi dernier, un groupe de personnes qui faisaient la queue devant le bureau de l'Institut islamique Mavuno de Birere s'en est pris à un homme l'accusant d'être rwandais. L'homme qui attendait pour s'inscrire avait pourtant des documents d'identité congolais. Le chef du centre d'enrôlement a dû intervenir pour calmer les gens et leur expliquer que l'homme en question est un Congolais qui, comme beaucoup d'autres, vit à Gisenyi au Rwanda.
Les gars que nous avons connus, ce sont des Congolais qui se disent non, nous restons à Gisenyi pour raison de l'éruption volcanique de la période passée. Comme ils n'ont pas d'abri à Goma ou même d'habitation, ils restent à Gisenyi mais ils viennent avec toutes les pièces congolaises.
La CI rappelle que quelqu'un avec des papiers congolais, même s'il vit au Rwanda, est congolais et a le droit de s'inscrire. En revanche, les personnes qui vivent au Rwanda et qui ont la double nationalité ne peuvent pas s'inscrire ici au Congo. Marie Chemati, coordinatrice de la CIO Nord-Kivu. Notre nationalité est une exclusive. Donc quelqu'un ne peut pas être en même temps rwandais et congolais. Ou il est congolais, ou il est rwandais. Et s'il vient s'enrôler en nous trompant qu'il est congolais, quand nous découvrirons le contraire, nous avons le droit de lui arracher sa carte. Pour éviter la fraude, la CIO a décidé d'afficher tous les soirs la liste de ceux qui se sont inscrits pour permettre à ceux qui suspectent une tricherie de venir la dénoncer. Goma, Dieudonné Bagaloua, Radio Okapi.
Toujours à l'est, au Maniema plus au sud, une épidémie de diarrhée qui fait penser au choléra affecte la ville de Kindu. Elle a déjà atteint une trentaine de personnes et fait 4 morts en 48 heures. Les professionnels de santé de Kindu et différentes ONG internationales intervenant dans ce domaine de la santé se sont réunis hier pour des dispositions de prise en charge des malades et pour éviter sa propagation. Gabriel Wamenya.
Plus de 4 morts et une trentaine de malades, c'est le bilan actuel de cette diarrhée qui affecte la ville de Kindu il y a quelques jours. Gaston Lutongo Paluku, médecin épidémiologiste de l'OMS à Kindu, parle du dépassement du seuil et confirme l'épidémie.
Selon la courbe, le nombre de cas notifiés est vu. L'aspect de ces diarrhées-là, nous avions un seuil de type de diarrhée colériforme pendant les années antérieures de 5 cas dans la zone de santé de Kindu, mais actuellement nous avons dépassé ce seuil. Donc pour nous, au vu des cas qui sont notifiés, nous sommes maintenant à plus de 29 cas pendant 2 semaines. Donc nous disons que ça a une allure d'une épidémie.
Déjà, certaines dispositions d'urgence sont mises en place pour une prise en charge des malades. Docteur Kasogo Mulamba, médecin inspecteur du Maniema.
Tous les cas suspects de diarrhée et vomissements qui peuvent survenir dans toute l'étendue de la ville ou de la province devront au préalable être envoyés à l'hôpital général de référence le plus rapidement possible parce que lorsqu'on attend, l'individu va continuer à perdre de l'eau et il peut mourir dans un tableau de déshydratation. C'est ce qu'on peut faire déjà pour l'instant pour une prise en charge correcte.
Signalons que cette situation n'est pas sans conséquence sur le processus électoral de la ville de Kindu. Déjà 3 centres d'identification et d'enrôlement fonctionnant dans les structures sanitaires viennent d'être déplacés pour éviter la contamination des futurs électeurs. Kindu, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
En Ituri, 4 nouveaux cas de choléra au sein de la 4e brigade intégrée mise en quarantaine au camp Rouen par Abounia. Au-delà du choléra, on signale également 70 cas de dysenterie bacillaire parmi ces militaires et leurs familles. Une délégation du département médical de l'état-major général de l'armée séjourne depuis hier à Abounia pour s'enquérir de la situation. Un reportage de Godlive Omondo.
La délégation est composée de 3 médecins et 6 infirmiers. Elle vient avec une cinquantaine de tentes et un peu de rations sèches pour les malades. Le colonel Vangou, chef du département médical de l'état-major des FRDC, s'est dit surpris d'apprendre que les militaires ont manqué de nourriture alors que l'état-major prévoit mensuellement de l'argent pour le fonds de ménage de chaque brigade.
Nous avons posé la question au commandant brigadier. Il nous a dit que les vivres sont en train d'être achetés en ville pour 7 jours. Ils sont venus avec l'argent de là où ils viennent. Chaque brigade reçoit le fonds de ménage mensuel. Et c'est le commandant de brigade qui gère, qui achète localement. La quarantaine, c'est très important qu'on puisse contenir toutes les troupes, leurs femmes et leurs enfants, dans le cantonnement. La continuation, nous pourrons prendre des mesures. Nous sommes envoyés pour ça. Nous allons faire le rapport aux autorités de l'état-major général.
Un groupe de 250 autres militaires et leurs dépendants qui étaient restés à Beni pour des soins ont rejoint la brigade hier mardi dans la soirée. Même s'ils sont arrivés dans un état de fatigue généralisée, ils ne présentent plus de symptômes de la maladie. Des mesures d'encadrement sont renforcées pour éviter la propagation de l'épidémie. Cependant, le mouvement des militaires et leurs familles ne semblent toujours pas être maîtrisés. Ceux-ci sont toujours en contact avec l'extérieur. La délégation du département médical de l'état-major quitte Bounia ce jeudi pour Beni. Elle aura à suivre l'état actuel de la maladie le long de la route empruntée par la 4e brigade intégrée. De Bounia, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, 100 rues, c'est le programme de santé rurale. Elle passe à sa 3e phase maintenant. Celle-ci concerne la prise en charge d'une manière efficace des maladies et autres infections sexuellement transmissibles dans 25 zones de santé de la République démocratique du Congo. Ce programme consiste aussi bien à la formation du personnel qu'en fourniture en médicaments. Qu'en est-il de ce programme au niveau du Kasaï occidental? Le point avec Marie-Chantal Lumba.
3 zones de santé de la province du Kasaï occidental sont concernées. Il s'agit de Boulapé, Tshikaji et celle de Lubondai. Selon le médecin chef de zone de Boulapé, Dr Bernard Ngoy, 2 personnes sur 10 qui se présentent dans un centre de santé sont atteintes d'une infection sexuellement transmissible. Un chiffre que l'on peut doubler étant donné que la plupart des personnes considère ces infections comme des maladies honteuses. Une situation inquiétante, explication de Dr Bernard Ngoy.
Ça affecte les organes génitaux. Chez nous, Africains, c'est vraiment un tabou, c'est un organe à cacher. Bah, avec ça, si quelqu'un est atteint, il n'arrive pas à conseiller l'infirmier qui est à son côté, la honte. Quand il verra que vraiment ça ne tient plus, bon, il arrive à se présenter, mais tardivement. C'est pour ça que dans nos stratégies, nous avons voulu vraiment stopper cette ignorance.
Le programme Sans Roue 3, par l'appui de Global Fund, commence par une formation du personnel soignant pendant 5 jours. Après, chaque zone de santé reçoit des kits de médicaments qui seront accessibles aux populations rurales. Docteur Mingina, chef de division de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles.
On prévoit par structure 6 kits, c'est-à-dire de quoi prendre en charge 600 nouveaux cas. Il sera question d'assurer maintenant le suivi sur le terrain, donc par des supervisions pour voir si tout se fait correctement.
Au total, 25 zones de santé en RDC vont recevoir l'appui de Sans Roue 3 pour lutter contre ces maladies. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Les prix de produits de la pêche et du commerce lacustre sont en hausse à Kalemi. C'est là une des conséquences des vents forts qui secouent le lac Tanganyika depuis dimanche dernier. Des vents qui ont provoqué mort d'hommes et continuent à perturber des activités de pêche et d'autres commerces qui en sont liés. François Xavier Mibé.
Les bateaux en provenance des Moba avec les denrées alimentaires n'osent pas quitter pour apporter des provisions à Kalemi. À cette difficulté s'ajoute la rareté des produits tels que le fretin. David Sadiki, président de l'Union des pêcheurs du Tanganyika.
Comme nous disons, la loi de l'offre et de la demande. Comme il n'y a pas l'abondance, le prix monte et les gens se démènent pour avoir à manger.
Au 4e jour de la tempête, la coopérative des pêcheurs du Tanganyika déplore pour sa part 5 morts et la perte considérable du matériel sur les lacs Tanganyika. En plus de ces dégâts, le trafic commercial des fretins vers les autres provinces du pays est également affecté. Paul Mutanda, un trafiquant du Kasaï oriental.
Par exemple, aujourd'hui, suite au vent, il n'y a rien sur le marché comme fretin. Si aujourd'hui on vide les stocks ici, on va nager toujours dans des 4000, 5000 comme d'avant. Il faut que les gens qui vendent en Boujmaï sachent que non, sur le marché maintenant, tout a changé.
Dans cette crise, le produit des champs garde encore leur prêt sur le marché des Kalemi. François Xavier Mibé, Radio Capi, Kalemi.
Ouverture ce matin à Brazzaville de la 23e session consultative des Nations Unies sur les questions de paix et sécurité en Afrique centrale. À l'ordre du jour, la réinsertion des ex-combattants et les processus démocratiques dans la sous-région. Les ministres qui prennent part à cette rencontre examineront les conclusions des travaux des experts, travaux tenus quelques heures plus tôt. De Brazzaville, une correspondance de Arsène Sevin.
La réinsertion des ex-combattants dans les pays ayant connu la guerre reste un problème par manque d'argent. Les pays de l'Afrique centrale déplorent en effet l'insuffisance des moyens pour la mise en œuvre de cette opération. Les ministres examineront aussi la question de la mise en œuvre de la brigade d'attente qui sera spécialisée dans les opérations d'intervention et de maintien d'ordre en cas de conflit armé dans l'un des pays membres. La question récurrente des rébellions armées qui sévissent aux frontières des pays de la CEAC, notamment le Rwanda et la RDC, sera également évoquée. La réunion qui s'ouvre ce jeudi permettra enfin de faire le point sur les préparatifs des manœuvres militaires de Bal El Ghazal qui auront lieu en Tchad en novembre prochain. Cette rencontre a été précédée par les travaux des experts. Ceux-ci se sont félicités de la fin du processus électoral en Centrafrique et au Burundi, des progrès dans le processus démocratique en RDC et des efforts du Congo pour la réinsertion des ex-miliciens. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
En Égypte, dans une semaine et pour la première fois depuis un demi-siècle, ce pays va élire son président au suffrage universel. L'actuel président Hosni Moubarak est sûr de l'emporter, même si la transparence de cette première présidentielle pluraliste continue à susciter des inquiétudes. Pour Hala Mustafa, rédactrice en chef de la revue Al-Dimugratia, le processus comptera plus que les résultats, exprimant ainsi l'opinion de la plupart des observateurs sur la campagne électorale égyptienne. Le syndicat des juges égyptiens, lui, menace de boycotter le scrutin si les magistrats ne peuvent assurer loyalement sa supervision. Le taux de suicide en Irlande du Nord a augmenté proportionnellement à la diminution de la violence entre catholiques et protestants. L'étude de l'université d'Ulster, publiée mercredi, révèle que 163 suicides ont été enregistrés en Irlande du Nord en 2000, 162 en 2002. Ces chiffres sont les plus élevés depuis 1966. En sport, Roué, c'est le champion du Congo de handball masculin. La finale contre l'équipe d'Héritage a eu lieu hier après 2 jours d'un match match nul arrêté lundi suite à l'insuffisance des lumières. Et hier, la fin est intervenue après sanction de l'arbitre contre Héritage. Les détails, vous le suivrez avec Christian Moulumba, 5 minutes après ce journal dans Okapi Sport. Moi, je vous dis merci de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.